Sur la Terre.
Le Festival
International
du film documentaire
Amazonie Caraïbes.
FIFAT, la 4e édition. Radio PK, c'est au FIFAC que ça se passe.
La masterclass d'Edouard Montout, c'est la classe.
Radio PK, Radio PK.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour cette masterclass qui se tient ici même au camp de la transportation en Guyane française. Une masterclass qui se tient dans le cadre de la 4e édition du Festival international du film documentaire Amazonie Caraïbes. Cette masterclass sera tenue et dirigée et vraiment orientée vers un homme qu'on pourrait qualifier de multitâche, puisque sa filmographie n'est plus à faire. C'est vraiment une personne qui a plus de 100 films à son actif. Il a jonglé entre le cinéma et le théâtre. Il est auteur, il est bientôt réalisateur, il est metteur en scène, il est comédien. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir Edouard Montout.
Moi, il faut savoir que bon, j'ai fait du cinéma, j'ai fait du théâtre, je fais surtout de la fiction, le documentaire, j'en regarde jamais. Et ben, ça va changer. Ça va changer parce que ça m'a ouvert vraiment vers des régions que je connaissais pas, vers des problématiques que je connaissais pas, vers un regard. Moi, c'est ce que je dis souvent. La chose, la plupart du temps, dans tous les films qu'on a vus, c'est la douleur. Ce sont des histoires basées sur la douleur, sur des complexités. Et en fait, c'est un festival. Ce festival devrait s'appeler le festival de la résilience. Voilà, le festival de la résilience, parce que ce sont des gens qui s'arrachent à la douleur, s'arrachent à la complexité de la vie, l'adversité, et qui, il y a quand même une parole, il y a un regard, il y a une élévation des esprits. C'est ce que je dis souvent, il faut inviter les chefs d'État ici, en fait. Il faut inviter Poutine, il faut inviter Bolsonaro, il faut les inviter, ces gens-là, pour qu'ils viennent à ce stage. Voilà.
À ce festival. C'est vrai qu'il transcende effectivement les artistes quand même, cette capacité à transcender la douleur via justement l'artistique de manière générale.
Alors faites attention, parce que moi, dans le milieu où je suis issu, les artistes effectivement ils transcendent pas, ils viennent et ils montrent, regardez comme je souffre. Voilà, c'est pas la même chose avec le documentaire. Dans l'artistique, on est souvent dans la fiction, tu sais, il y a quand même pas mal de comédiens qui on se donne des prix, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau comme je souffre. C'est un petit peu ça. Là, c'est pas ça. Là, voilà. La différence, c'est qu'il n'y a pas d'ego. Ici, il y a beaucoup moins d'ego.
Alors, comment ça a commencé, ta carrière en tant qu'acteur? Tu es passé par les cours Florent?
En fait, ça commence toujours comme tout le monde. Ça commence à l'école. J'ai un peu l'impression que j'ai toujours une vis comicale. J'ai toujours eu l'impression que je suis pas un grand comédien, je me suis devenu modèle, mais au départ, j'avais pas peur du ridicule. On avait fait 2-3 sets, j'étais à l'école, j'étais en 5e, 4e, et j'avais une facilité, ça se sentait. J'avais la comédie, je faisais Scapin, tu vois, il faut bouger Scapin, non, ça se sentait. Et après, bon, le problème, c'est qu'après, t'oublies, c'était pas une passion à la base. Et puis, soyons honnêtes, je sais plus quel rappeur disait ça, moi, je voyais les seuls noirs qu'on voyait à l'écran, c'était les noirs dans Tarzan, et ils mouraient juste après le générique, tu vois. Donc, ça donnait pas spécialement envie. Alors, effectivement, il y avait Richard Donacord, enfin, voilà, on n'était pas inspirés, donc fallait vraiment, donc c'est vraiment vers 18 ans où j'ai vraiment pris conscience que j'étais bon en rien. Je savais pas quoi faire. Et j'étais tombé sur la phrase de Christophe Lambert, j'aimais bien Christophe Lambert, qui disait, ouais, quand quelqu'un a des rêves, il faut pas le décevoir, même s'il est déçu 20 ans après. J'avais aucun rêve. J'avais pas cet ego de me dire il faut que les gens viennent me voir, mais le côté, même si on est déçu 20 ans après, je me disais, mais j'ai 20 ans, j'ai pas le bac, j'ai aucune valise, qu'est-ce que j'ai à perdre? Donc c'est surtout ça. Et puis après, tu t'entoures de profs, de gens qui te disent l'amour des textes, l'amour des situations, des choses comme ça. Et puis moi, très vite, je me suis posé des questions, c'est intéressant qu'on en parle tous, parce que quelque part, c'est la même chose qui se passe ici. On a tous ça en commun. Moi, j'ai toujours eu cette impression. Je pensais à ça très fort, parce que
J'ai fait quand même pas mal de... J'allais dire des merdes, pardon, je suis désolé, hein, mais je vais être un peu grossier, hein, ça va être un masterclass grossière. Et dans ces moments-là, quand t'es là, que tu, le texte qu'on te donne à faire, tu dis, mon Dieu, tu penses tout ça à quoi tu penses. Moi, je pensais, dans tous les pays, et tu sais que les documentaires qu'on a vus en témoignent, dans tous les pays, quand il y a la guerre, je pense à des trucs d'Afrique, qu'est-ce que font les mecs qui ont gagné, qui ont tué presque tout le monde? Ils prennent les médias pour dire, on a gagné, voilà. Et je me suis dit, et les médias, c'est quoi? C'est parler au nom de gens qui ne peuvent plus parler. C'est ce qu'on fait. C'est exactement ce qu'on fait. On prend une caméra et on parle au nom de gens, des gens lambda. Et quand je me suis dit ça, je me suis dit, je vais essayer de raconter moins de merde, en fait. Every day he dreams to walk
away from this office door. La Guyane, tu es resté en Guyane combien de temps?
J'y suis né et je suis parti, j'ai 18 mois.
D'accord.
Et 18 mois, et j'y suis retourné pas longtemps après, puisque effectivement c'était ma mère était fonctionnaire, et donc c'était grâce à la fonction d'État qu'on pouvait payer le billet, parce qu'à cette époque-là il était toujours aussi cher. Ça donc j'y suis revenu à 13 ans, et comme j'y suis le mal était déjà fait, j'étais très la problématique, t'es noir, t'es en banlieue. C'est très cool, mais t'essayes d'être un peu plus. T'essayes presque d'être plus blanc que les blancs. Moi, je me rappelle, j'étais couillon comme un peu, mais j'étais couillon. J'ai pas beaucoup changé. Et tu sais, comme j'étais avec des potes blancs, j'essayais de leur ressembler, et j'étais comme ça. Vous savez, mâcher le chewing-gum sans avoir le chewing-gum. Et le pire, c'est que je faisais ça. Comme si j'avais une mèche. J'étais ridicule. C'est maintenant que je m'en rends compte. On n'est pas une carte postale. On n'est pas, c'est pas le département qu'on met toujours en avant plus que la Guadeloupe et la Martinique. On est roots et j'en ai toujours fait une fierté de ça. C'est ça qui m'intéresse plutôt que le côté non, voilà. C'est plutôt une et j'aime l'idée que au tout début, tout le monde mourait. Eh ouais, c'est pas, voilà, on rigole pas, voilà. J'aime bien ça. Il y a un côté c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe qui ne mérite pas la Guyane.
Ah, voilà. Oh, ça mérite des applaudissements, ça. Il faut l'avoir dit, du coup, il mérite la Guyane presque 1000 fois. Pour le théâtre, ça s'est passé comment?
C'est toujours un petit peu en fonction de l'école. Moi, j'étais dans une école, c'est l'école Florent, donc j'ai commencé par le théâtre, tu sais, qui fait des scènes comme ça, et puis finalement. J'ai joué beaucoup de textes africains auxquels je ne comprenais rien. Mais ça m'a fait, j'ai eu la chance de partir et à ce moment-là, je concevais pas la chance que j'avais. J'avais 20 ans, j'ai joué Roméo dans un Roméo Juliette revu par Sony Laboutancy. J'ai joué Sony Laboutancy, j'ai joué Tikayo Tapsi. Je ne comprenais rien à ces textes. Pardon, désolé si ça finit dans la... Ouais. Mais j'ai participé à un événement qui s'appelait le PBKB, parce qu'on avait commencé la pièce à Bordeaux, et donc on a fait Bordeaux, Brazzaville, Kinshasa, jusqu'en Bangui, et c'était sur le bateau présidentiel du Congo. Il y a un truc de fou qui se refait plus maintenant. Donc oui, il y a tout ce rapport-là à la scène. Et puis j'ai joué Aimé Césaire également, j'ai joué dans la cour de Copa del Rey à Avignon, ce qui n'est pas rien. Non, j'ai un peu bourlingué, j'ai un petit peu touché un petit peu à tout, j'ai eu la chance de jouer Othello, mais en même temps, il y a un truc aussi qu'il faut savoir, il faut le dire aux jeunes aussi, et c'est pareil comme les documentaires. J'ai regardé les documentaires et des fois, c'est pour ça que je disais à mon co-jury, je leur disais, des fois je me retournais vers eux, je disais, bon, là vous avez prévenu, moi je viens de taxi, là pour ça j'ai pas les codes. Donc vous allez devoir m'aider. Et voilà, des fois il faut avoir des codes. Moi Shakespeare, on m'a appris à aimer Shakespeare. Tu vois, et je trouve que j'ai joué Aimé Césaire. Je pense que j'aime bien lire du Aimé Césaire, ce qui ne m'arrive pas toujours, mais je ne comprends pas Aimé Césaire. Je pense qu'il va falloir qu'on apprenne à aimer Aimé Césaire. Ce sont des textes qui ne sont pas si faciles d'accès que ça. Voilà. Donc, mais c'est intéressant, c'est pour ça que. Je donne des cours maintenant, souvent des coachs pour des jeunes comédiens qui veulent aider, et j'essaie de les tourner vers le théâtre le plus possible. Ouais. J'ai envie de retourner au théâtre. Donc, voilà.
Plutôt que l'image.
Là, je ne vais pas vous dire qui, hein. Mais ceux qui connaissent ça, je vais juste. Un jour, je devais faire une scène, et la personne que j'aimais était en train de mourir. J'étais à son chevet. Et le réal m'appelle par mon nom, mais je ne dirai pas le nom parce que vous avez trouvé une fille, et voilà. Et il me dit, attends, Un tel est mort. Tu l'aimais. Il est mort.
J'étais à genoux. J'essayais de chercher en moi, tu vois, la truc. Et franchement, j'avais envie de lui dire, tais-toi, s'il te plaît, tais-toi. Tu vois, ça. Un tel. Ton ami est mort. Tu l'aimais. Il est mort. Franchement, t'as envie de faire, ah bon? T'es sûr? Non, mais voilà, quoi, à un moment donné, sincèrement, réalise, tiens la caméra et laisse-moi faire mon travail. Oh, Mr. Johnson must get
out. Mr. Johnson must be free. Donc peut-être tu ne soupçonnais pas le succès. On t'annonce que voilà, tu vas jouer dans Taxi. T'es pris pour jouer dans Taxi. Comment ça se passe? Tu comprends qu'il va y avoir une envergure terrible de ce film et que tout le monde va s'en rappeler, que ça risque même de marquer des générations. Il n'y en a pas un dans la salle qui n'a pas pu dire au moins un Taxi. Tout le monde les a vus. Est-ce que à ce moment-là, tu te dis ouais, ça va certainement être une belle vitrine pour moi et jumper ma carrière?
En fait, non, parce que premièrement, tu sais pas que ça va faire ce carton-là.
C'est ça.
Deuxièmement, c'est ce que j'aimais bien dire, j'ai fait les 5, mais on m'a jamais laissé toucher le volant. Voilà, ça veut dire que j'ai toujours conscience que je participe à des choses, tu vois ce que je veux dire, mais c'est pas moi qui les porte. Et le problème, alors là, attention, bah, je vais faire mal à des gens, mais moi, Taxi, j'ai pas les DVD chez moi. Moi, Taxi, la raison aussi pour laquelle je prenais pas conscience de la popularité de ce truc, c'est que je suis pas sûr d'aimer Taxi, et en plus, le tournage, ça n'a jamais été des tournages vraiment très heureux. C'était un peu complexe, c'est Besson, c'est le monde de Besson, c'est pas évident. Le mec qui réalise, qui s'appelle Kramnik, tu sentais qu'il était un peu stressé, oppressé, c'était pas évident, et si les gens sont honnêtes, Fred Diffenthal serait là, il dirait ouais, c'était pas, voilà. En revanche, quand je prépare Astérix, ça n'a rien à voir. Tu vois ce que je veux dire? Je suis assez fier de pas mal de trucs, mais ouais, je crois que c'est Astérix, quoi, c'est Astérix, mais pas pour des raisons de jeu, mais pour plus des raisons d'éclat, quoi. J'étais avec un mec qui s'appelle Shabba, et il y avait les mêmes énergies de mots qui font un court métrage. Voilà. D'ailleurs, j'essayais de lui poser une question un peu intéressante. C'est toujours de poser des questions encore originales. Il avait fait une fête. Il avait fait une fête avant le tournage à Paris. Et j'essayais de. Tu sais, on essayait toujours de marquer la personne, tu vois. Et j'avais dit, mais comment tu vas faire? Il avait quoi? Comment tu vas faire pour gérer les deux pôles de stars? Parce que, ouais, on a d'un côté Jamel Debbouze qui était déjà Jamel Debbouze. Et de l'autre côté, les deux rugbycons français, ils m'avaient regardé comme ça, genre, ils cherchent la merde, tu vois, mais ils veulent, ça va aller, très cool. Et c'est vrai que ça a été très cool, ça a toujours été très cool. Alors qu'il y avait, je sais pas combien de millions sur ce film, alors que, voilà. C'est ça aussi. Il y a une chose, on a toujours remarqué ça, je sais pas ce que tu en penses, mais un film, enfin, en tout cas, un tournage, a l'humeur du réalisateur. Voilà. Il y a des réalisateurs qui sont tourmentés. Le tournage, on va marcher sur des œufs. Voilà. Le mec qui est tranquille, qui est relax, les gens seront heureux. Ceci dit, c'est pas parce que les gens seront heureux que le film marchera. C'est vrai, ça c'est un truc qu'on ne maîtrise pas. Bon, Astérix c'est autre chose. Astérix c'est autre chose. D'ailleurs, Shabba, un jour il me dit, parce que je suis censé. Je faisais d'ailleurs, qui se rappelle de mon nom dans Astérix? Attention, vous chercherez. Un petit truc, Blade Runner. Si tu connais Blade Runner, tu trouves mon nom. Mais dans la BD, moi je regarde la BD, toi, pour savoir, puis je regarde mon rôle. Et dans la BD, le personnage s'appelle Tournevis. Ok? Voilà. Et dans la BD, et un jour, la costumière a dit, moi tu serais libre la semaine prochaine pour des essais costumes? Je fais, ouais. Mais je vois que dans la BD, Tournevis, il a juste une serviette autour de la taille, hein. Et Shabba, un jour, il m'a dit, écoute, Edouard, ton personnage, c'est ça tout le monde, mais c'est quand j'ai pris conscience, quand j'ai trouvé ton costume, que j'ai trouvé l'esprit du film.
Et quand même, quand on tourne pour Besson, juste le fait de dire qu'on va tourner pour Besson, parce que là, toi, tu sais, vrai qu'avec toutes tes années d'expérience, tu n'en prends peut-être même plus la mesure, mais vous, dans la salle, ou moi à côté de toi, je me dis, tourner pour Besson, quand même, c'est quand même quelque chose d'assez fort, même ça. Ça a été quoi pour toi le... Il y a eu aussi une petite palpitation, quelque chose de particulier
Parce que, et ça c'est peut-être une question de goût, mais moi quand j'étais sur les taxis, j'adorais un autre humour, qui était l'humour de Bakri Jaoui. Je voulais être en face. Mais je suis le mec qui trouve que de toute façon ce que j'ai dans mon assiette, c'est moins bien que ce qu'il y a dans cette voiture. Donc voilà. Donc déjà. Et puis les taxis, mon Dieu, les taxis, taxi quand même. Mais pour moi, je trouvais qu'on faisait de l'humour. Pour moi, c'était l'humour, le gendarme et le gendarmette. Parce que pour nous, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on gagnait, il fallait faire le coudon. Tu vois, alors je le fais bien, mais c'est fatigant.
Des questions dans le public, Frédéric.
Frédéric, mon petit vieux du soir.
Frédéric, oui.
Bonjour Edouard, mon tweet. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais j'ai jamais vu Taxi. Par contre, j'ai vu La Haine des centaines de fois.
Ah ouais.
Et est-ce que tu peux nous parler un peu du tournage de La Haine?
Alors pareil, c'était une misère. Non, pourquoi? Sur la Haine, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont repéré, mais j'ai la voix cassée. Parce que la veille, alors c'était du temps où on pouvait tourner cette scène-là, c'est tourné en une journée. C'est-à-dire au début, le matin, il n'arrivait pas. En fait, c'est lui-même le chef d'op qui m'a dit ça, il m'a dit qu'il y a eu deux jours où Mathieu Kassovitz n'avait pas l'inspiration. Et c'en était un. J'en avais qu'un seul. Voilà. Mais on a tourné ça en une journée. Et là, vraiment, si je dois faire un one man, un jour, je veux refaire cette scène devant le public. Là, vraiment, il faut dire ce qu'il y a, on va être honnête. Hein. J'ai pas travaillé, moi, là. Très honnêtement, je n'avais pas préparé. D'abord, parce que j'ai pas eu le scénario, donc je ne sais pas exactement ce que de quoi ça parlait, j'avais juste la scène, et qui est très vite partie en impro, tu vois. Et puis je courais un peu après un accent antillais que je n'ai jamais vraiment eu. Il faut dire ce qu'il y a. Et je m'étais pété la voix la veille, donc quand tu pètes la voix et que tu n'arrives pas à la retrouver, toutes les petites subtilités de jeu, au revoir, voilà. Mais la scène est ce qu'elle est. Et on me repère encore, c'est dingue. Alors que moi, encore une fois, le mec qui préfère la soupe de l'autre, alors que moi, dans la haine, je jalouse la scène du mec qui s'appelle Astérix. Tu vois le truc, voilà. Qui est joué par je sais plus, il s'appelle, par François Bumbret. Tu préfères l'autre scène.
Darty, mais je suis passé hier pour mettre une la vidéo là.
J'ai pas eu de thune, je sais pas moi qui t'ai tué.
Quoi?
Attends, mais t'es pas au courant de ce qui s'est passé ou quoi? Va voir si c'est des petits copains là pendant tout, quand vous étiez dehors.
Oh,
va voir un peu.
Sur la tête des larceaux,
c'est ton copain là, le frère de Fouette qui a fait ça.
Et alors?
Et alors quoi? Donne-moi son adresse, mais comme c'est pas possible ça. Tu as vu dans quel état il a mis la voiture? Attends, tu as vu dans quel état il a mis la voiture? Regarde. Non, laisse ça. 50 000 francs que je perds là. 50 000 francs, comment je fais maintenant pour aller travailler?
C'est qu'une voiture. C'est qu'une voiture.
Je parle rarement de personnages parce que je trouve qu'on commence à parler de personnages si effectivement on crée quelque chose, on compose. Or en France on compose pas beaucoup. On compose pas beaucoup. On nous demande d'être nous-mêmes en fait. Donc moi dans toutes les choses que j'ai faites, c'était Édouard dans Taxi, c'était Édouard dans Astérix, tu vois que c'est. Je me rapproche un peu des choses, mais moi je vous. La composition, prenez un mec comme Daniel Day-Lewis, et vous voyez l'un de ses premiers films, un film qui s'appelle My Left Foot, ouais, là, on peut dire qu'il y a un personnage. Voilà. C'est pas l'amour du texte, c'est pas le respect du texte, mais c'est la réflexion, qu'est-ce que c'est qu'une scène? Et je pense, je sais pas si, en tout cas les gens que j'ai rencontrés au théâtre m'ont appris ça, je sais pas si les gens que j'aurais rencontrés à l'image m'auraient amené ça. Et à l'image, soyons honnêtes, un comédien se débrouille. Tu sais pourquoi? Et je dis souvent, et vous savez de quoi je parle, si on mettait autant de temps, si on donnait autant de temps aux comédiens de jouer la scène ou de la répéter, qu'on donne au chef-op de faire la lumière, hein, ou au cadreur de produire le cadre, hein, vous avez vu à quel point on est tellement assujetti par. C'est pas l'image, ça n'a jamais, et je crois que ça ne va pas prendre le champ, ça n'a jamais été, comme disait le vieux, ça n'a jamais été la maison du comédien. La maison du comédien, elle est ici. Dès que tu veux travailler quelque chose, c'est ici. Dès que tu veux. Bah, c'est. Alors, à l'image, oui, mais à l'image, voilà. il y a aussi le fait que si t'as eu le scénario quand tu fais le premier rôle, c'est génial, t'as le temps de travailler le truc. À mon avis, Marion Cotillard, pour faire la mauve, elle l'a répété, tu vois ce que je veux dire. Mais en règle générale, le scénario, on te le donne 2 semaines avant, et on tourne tout de suite, et t'as 3 phrases. Voilà. Donc c'est compliqué. Effectivement, là, il faut chercher en soi, mais il faut jeter le truc. Même, par exemple, il y a quelque chose au théâtre qui, à mon avis, n'a plus au cinéma et en télé, c'est ce qu'on appelle le travail à la table. Le travail à la table, c'est qu'on s'assoit tous autour et on fait des lectures.
Je vais poser la question à Édouard et à Serge, et j'adore poser cette question-là aux acteurs. Quel a été votre moment de solitude, de gêne intense? Tu sais, quand tu te plantes sur quelque chose, ou il t'arrive une aventure, voilà. S'il vous plaît, merci de nous dire la pire de votre carrière.
C'est chiant parce que, non, ça c'est des trucs chiants parce que le problème c'est que, y a pas que nous, ça n'a même pas que nous-mêmes, c'est Moi j'en ai une, mais je suis juste balancé, quoi. Je me suis balancé.
Tu fais des bips à chaque fois.
C'est même pas un truc drôle, c'est un truc un peu. Pascal Légitimus. Franchement, je m'en fous, je vais le dire. Ça fait partie des films. Il n'y a pas beaucoup de films dont je me dis, ça, je suis là, j'aurais peut-être que tu passes à côté. Je suis pas dingue de ce film. Je crois qu'il aurait pu l'appeler du bouddhisme. Et je faisais. Pascal, tu nous écoutes. Et il avait marché, hein. Il avait marché en plus, hein, anti-surfait. Et en fait, je faisais un mec. J'étais déjà sur MeToo, vous allez comprendre. Et je faisais un mec, je faisais un jeune qui animait une station de radio et je recevais des coups de fil et c'était censé ça c'est une des scènes et c'était censé je recevais des coups de fil de gens qui demandaient qu'est-ce que tu veux pour Noël, qu'est-ce que tu veux pour le Nouvel An, et il y avait une femme qui dit ouais mon mari, et on était censé être en Guadeloupe, mon mari j'en ai marre, mon mari me trompe tout le temps, et je répondais à la femme mais qu'est-ce que tu veux que tu dises, t'avais qu'un entier, si tu veux que personne te trompe, sois lesbienne. Donc, j'ai dit à Pascal. Ah, bon, alors, bon, ça va, je vais la dire. Et puis, une autre fois, on avait un père, c'était un truc de famille, tu vois, et un père qui était joué par Ben Hondo, et il y avait un ami, l'ami, même un oncle, ou je sais pas quoi, qui était joué par Greg Germain, et il nous avait trahis. Et Ben Hondo disait, c'est vrai que c'était des grands textes, hein, et Ben Hondo disait, je ne comprends pas, mais mon ami de toujours, pourquoi m'a-t-il trahi? Et je veux bien, Ben Hondo, je le tiens bien. Et moi je répondais, c'est normal, il voulait, on dit souvent, le beurre et l'argent du beurre, hein, et les fuses de la lumière. Et là, il me fait dire, c'est normal, il voulait le beurre et l'argent du juif. Quelques années après, l'affaire a fini.
Ouais, ouais.
Voilà, alors effectivement, oui,
solitude. Voilà. Alors attendez, on a une question de cette jeune fille qui va vous présenter, qui va poser sa question.
Du coup, je voulais pas poser de question, justement, je voulais plutôt parler de mon expérience. Fut un temps où j'ai voulu être comédienne, justement. Et en fait, j'ai trouvé que c'était un monde de. Très compliqué, c'était très compliqué d'y rentrer, parce que moi j'avais juste une expérience de lycée qui m'avait beaucoup plu. Et donc j'ai voulu passer par le conservatoire, j'ai voulu passer par les théâtres. En fait, il y avait toujours cette question-là du casting, où comme il y avait beaucoup de compétitions, ils cherchaient plus forcément un talent, ils cherchaient en fait un faciès, parce qu'il fallait les démarquer des talents, il y en avait plein. Et moi j'avoue que ça m'a beaucoup déçue et je me suis un peu arrêtée à ça, donc maintenant j'en fais en tant qu'amatrice. Et donc, il n'y a plus cet enjeu-là de devoir avoir le faciès. On peut vraiment s'amuser parce que finalement, il n'y a plus d'enjeu. On est là pour travailler le texte. Et c'est vrai que c'est un peu ce qui m'a arrêté. Désolée si j'ai
fait. Non, je pense que c'est une très bonne façon de faire aussi. Hein, parce que voilà, c'est ça. C'est, le principal, c'est de jouer. C'est de jouer et continuer. Et puis, à un moment donné, quand vous sentirez bien, filmez-vous. Parce que c'est vachement important aussi. Si vous voulez qu'on vienne vous chercher, il faut avoir une bande démo. Filmez-vous. Apprenez des monologues, filmez-vous. Trouvez des gens avec qui travailler, moi je dis ça à tout le monde. Trouvez des gens avec qui travailler, regardez-vous. Montrez ce que vous faites aux autres, des gens qui vont oser vous dire, c'est pas terrible. Voilà. Mais au moins comme ça, on travaille. Marion Cotillard, encore pour nous tout le monde. Je cite rarement des comédiens français, donc je suis un peu déçu. Marion Cotillard, moi j'ai appris l'autre jour, ses premiers cachets, elle a acheté une caméra, elle n'arrêtait pas de se filmer, et elle regardait, et elle a travaillé comme ça. Elle a travaillé comme ça. Enfin, quand je dis travailler, travailler sur son art, quoi.
Alors moi, à chaque fois que comme je donne des cours, et j'ai fait venir Lucien Jean-Baptiste pour qu'il donne son avis, nous, on se débrouille toujours pour dégoûter les gens de ce métier. Pourquoi ? Non, c'est pas ça, c'est que si tu décides de faire ce métier, mais putain, pardon, il faut l'arracher le truc. Il faut avoir plus que la merde. Il faut être sûr d'être passionné. Il faut être sûr d'avoir un truc à dire. Il faut se poser la question, pourquoi moi, les gens viendront me voir ? Il faut pas trouver la réponse, mais il faut se poser la question. Il faut vraiment y aller, il faut pas venir en touriste. J'engueule, moi, les gens, je vais retrouver des TikTokers. Je leur ai dit, mais les gars, en fait, vous voulez pas être comédien ? Je vous cite un film et j'en cite plein pour pouvoir aussi. Tu sais, quand tu diriges des gens, tu donnes des références. Et vous n'allez pas au cinéma et vous êtes comédien. Pourquoi vous êtes comédien ? Vous êtes jamais au cinéma. Tu vois, c'est ça aussi. En fait, c'est un métier qui se mérite. C'est un métier qui se mérite parce que là, t'y mets ton sang, quoi. T'y mets ton sang. Et quand on voit des comédiens qui disent, oh ouais, comme ça, t'as envie de leur dire, vas-y, prends la photo. T'as pas compris. Non, c'est vraiment, c'est pas un métier, c'est une religion, c'est une passion, c'est quelque chose, quoi, qui se maintient. Et si tu passes ça, chevillé au corps, tu risques de te laisser tomber très vite et t'auras perdu du temps. Ou alors, tu le fais à la Cool Raoul. Voilà. Je trouve que dans toutes les écoles, pour les tout petits, il devrait y avoir du théâtre. Parce que c'est un métier d'ouverture vers les autres, franchement. Et je voudrais en profiter pour surfer là-dessus. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux d'avoir passé ces jours-ci ici. Parce qu'en fait, je vais être un peu ému. Le monde va pas bien en ce moment. Vous en avez peut-être... Moi, je vois à cause du Covid, je vois à cause de l'environnement. J'ai tellement l'impression que c'est bientôt la fin de l'ère humaine. Voilà, je suis pas quelqu'un très optimiste. Et il y a des guerres en Ukraine, il y a des guerres là-bas, il y a des trucs, hein, vous connaissez la misère. Et nos gouvernants, on n'y croit plus tellement. Donc ces petits moments de vie où on se rencontre, où on regarde un petit peu ce qui se passe dans les documentaires, je crois que les gens qui organisent cet événement n'ont pas conscience à quel point le monde a besoin de ça. On a besoin de ça. On a besoin de ces films-là. On a besoin d'aller voir. Comme je le dis toujours, il faut inviter Poutine, il faut inviter l'autre à Poutine là-bas pour qu'ils voient c'est qui les gens, qui sont les gens. Il faut se voir. On a failli mourir à cause du Covid à rester chez nous. Et il y a des jeunes, à force de voir des masques, qui ne se projettent plus dans l'avenir. C'est bon de faire ce qu'on fait là. On change le monde, j'en suis persuadé.
Qu'on va encore une fois applaudir Edouard Montout.
Radio PK, c'est au FIFAC que ça se passe.